Salut à tous, bienvenue sur Nipcoin, Nipcoin 12. Aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie, de crypto-protocole, de tout ce qui fait le monde des bitcoins et de tous les altcoins aussi, parce qu'on les aime, les altcoins. Si vous n'êtes pas trop au courant de ce que c'est, eh bien, tranquille, nous on parle de ça, on essaye, hein. Alors on vulgarise pas à mort, parce que voilà, mais vous allez tous les premiers épisodes pour comprendre vraiment ce que c'est tout ça. Et aujourd'hui, en plus, c'est un thème accessible qu'on va faire, puisque c'est là régulation, donc pas besoin de sortir vos cours d'ingénieur, non, tout simple, tout bien, on va se faire plaisir, et on est deux, Joanne, vous l'entendez, parce que normalement, c'est pas moi qui fais l'intro de Nipcoin, Joanne est donc pas là, mais Fabrice est bien là, lui.
Oui, salut Ben, voilà, un numéro un peu original, en tout cas une première, puisque on est tous les deux pour faire ce numéro de Nipcoin, et plaisir d'être ensemble encore une fois.
Oui, c'est cool. Et puis c'est vrai, hein, c'est l'idée de Nipcoin, c'est décentralisé. Donc c'est celui qui est là, qui peut faire l'intro, qui peut faire le dossier. On est comme ça, on vit jusqu'au bout le concept de décentralisation. Tout ça évidemment depuis entre la Suisse et le Luxembourg, deux futures places fortes du Bitcoin, et pas pour que des raisons bassement, je dirais, financière, parce qu'on a déjà des banques à foison dans nos rues, mais aussi parce qu'on a des cadres légaux qui, si je ne me trompe pas, en tout cas pour la Suisse, sont favorables à l'utilisation du Bitcoin. Elles sont stables, elles sont assez limpides, faciles à comprendre. C'est pas toujours le cas, et aujourd'hui, donc, Fabrice s'est attelé à la tâche ô combien périlleuse d'essayer de nous faire comprendre un petit peu le cadre légal. Alors d'abord, dis-nous un petit peu ce que tu veux nous parler en Europe, dans le monde, parce que autant de pays que de législation, je pense qu'il va falloir cadrer, hein.
Ah oui, non, mais justement, l'idée aujourd'hui, c'est pas tellement de parler des conditions précises dans l'une ou l'autre pays, mais de parler, en fait, des aspects en général et des conditions de la régulation. Qu'est-ce qu'on entend par régulation autour du Bitcoin et d'une monnaie électronique? Quelles sont les implications pour que, ensuite, les auditeurs, en fonction des endroits et des différents pays, eh ben, puissent regarder? Ça, c'est plus l'idée de donner un filtre qui permet de comprendre ce qui se passe, que de donner les réponses à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'en plus les choses bougent très très vite et les pays acceptent, sont plus ou moins ouverts et les choses bougent assez rapidement. Donc l'idée c'est plus de donner un filtre autour de la régulation que de donner des réponses précises. On donnera aussi des liens, il y a un site, c'est Bitre, je sais plus le nom exactement, il y a un site qui est assez connu finalement qui donne une carte du monde avec des couleurs derrière les différents pays en fonction de l'acceptation plus ou moins forte du Bitcoin. Mais là, l'idée, c'est aujourd'hui plus de donner des clés pour comprendre, on va dire.
Alors, dis-nous tout ça. Quels sont les filtres utiles pour comprendre la régulation du Bitcoin? Comment est-ce qu'on s'y prend?
Alors, la première chose, c'est souvent quand on parle de régulation du Bitcoin, et la première question, c'est est-ce que le Bitcoin est légal ou pas? Ce qui est important aussi, c'est de voir que le Bitcoin en tant que tel, avant de dire si c'est légal ou pas, il faut essayer de lui donner une définition. On a la définition au sens mathématique, au sens de l'outil informatique qu'on connaît. Maintenant, pour le régulateur, qu'est-ce que c'est concrètement? Et quel statut le régulateur peut donner au Bitcoin lui-même? Là, en fait, il y a, moi, je distingue quatre statuts différents. Il y en a peut-être d'autres. Hein, tu peux. Alors tout ça, bien sûr, c'est pas, c'est vraiment, sont des choses qui sont, ce sont des réalités. Maintenant, c'est pas non plus la Bible. Les choses bougent. Il y a peut-être des nouveaux statuts qui vont pouvoir arriver. Donc, si dans les notes de l'émission vous voulez donner votre avis ou enrichir ce que l'on va dire aujourd'hui, il faut surtout pas hésiter. Donc, quels sont les différents statuts? Alors, le premier qui vient à l'esprit, c'est une devise. Donc, est-ce que le Bitcoin est une devise au même titre que l'euro, le dollar, le yen, tous les devises qu'on connaît? Donc, ça peut être une devise avec un certain nombre d'applications. À ma connaissance, le seul pays que je connais qui a considéré le Bitcoin comme une devise étrangère, c'est l'Allemagne. Alors, je ne sais pas si toi, t'en connais d'autres ou si la Suisse le fait.
Ouais, l'Allemagne, oui, c'est un petit peu compliqué. Non, la Suisse, en tout cas pas. Elle a un statut dont on parlera plus tard, mais de monnaie électronique et de monnaie virtuelle. Alors, il y a des différences, mais qu'elle reconnaît depuis un moment, pas que pour les bitcoins, hein, mais pour toutes sortes de monnaies et de façons de se passer de l'argent, en fait, on va dire.
D'accord. Donc, une devise au même titre que l'euro, ou enfin, tous les autres devises, avec une application principale pour un pays qui voudrait vraiment accepter le bitcoin comme monnaie officielle, comme une monnaie officielle, c'est que, a priori, les commerçants n'ont pas le droit de refuser des paiements dans une monnaie qui a cours dans le pays dans lequel ils se trouvent. Et donc, ça voudrait dire pour un pays qui l'accepterait, alors pas comme l'Allemagne l'a accepté, puisqu'a priori, ils ont considéré que c'était une monnaie étrangère et pas forcément une monnaie qui avait cours légal sur leur territoire, d'après ce que j'en ai compris. Mais pour une monnaie qui...
C'est à peu près sûr, ouais. J'imagine.
Voilà. Mais si à un moment donné, un pays disait, oui, pour nous, le Bitcoin est une monnaie qui a cours légal sur notre territoire, ça voudrait dire comme la première application concrète, c'est que les commerçants ne pourraient pas refuser des paiements en Bitcoin, ce qui serait... quand même une application assez forte. Aujourd'hui, très peu, voire pas de pays, considèrent le
Non.
Bitcoin comme une vraie devise, on va dire,
Et
même s'il y a un
d'ailleurs,
cours de change.
moi-même, je ne pense pas que ça serait une utilisation intelligente de Bitcoin que d'en faire une devise à ce prix-là. Alors là, c'est, je rentre dans la politique, mais on a par ailleurs des choses, des devises nationales qui remplissent. Je trouve que Bitcoin doit remplir de nouveaux rôles, pas essayer de mimer des choses qui existent par ailleurs et qui fonctionnent, quoi.
Oui, je suis assez d'accord. Et en plus, le fait que un des problèmes aujourd'hui pour le Bitcoin en tant que devise, c'est son l'aspect spéculatif et le cours qui varie énormément. Quelqu'un qui accepte un paiement en Bitcoin sait qu'il prend un risque fort quand il va vouloir changer dans la monnaie locale, parce que quelques heures après, les cours peuvent varier de plusieurs pourcentages. Donc
Ouais, non, c'est clair.
c'est dangereux. Autre statut possible, c'est un instrument financier. Donc un instrument financier, comme on a des titres, par exemple, des titres au porteur, des bons de caisse, peu importe, sont des instruments financiers. Donc ce sont des choses qui peuvent être stockées sur un compte en banque, qui ont une valeur de change à court par rapport à d'autres, par rapport à des devises notamment, ou par rapport à d'autres instruments financiers, et qui peuvent être manipulés par le système financier. Donc ce ne sont
Ouais.
pas des
Ce qui est
devises.
la façon actuelle, en tout cas, de calculer la valeur en Suisse de tes bitcoins. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'à la fin de l'année fiscale, eh ben, évidemment, on va te dire quelle est votre fortune. Et ben, ta fortune en bitcoin, elle a fait x2 à un moment ou à un autre dans l'année, ou divisé par 2 selon à quel moment tu es. Et donc là, il y a des lois qui sont très précises, qui existent pour les actions, et qui sont, ben, chaque pays les a, mais elles sont hyper bien définies. Donc ça, c'est assez pratique en termes fiscaux, en tout cas.
Oui, exactement. C'est vrai que une des particularités de l'instrument financier, c'est quand on valorise sa fortune à un moment donné, eh bien, on valorise la différence entre le cours au moment où on fait la valorisation, donc le prix de l'instrument, la valeur de l'instrument financier, et la valeur d'acquisition. Ce qui rend effectivement pour la partie taxation du Bitcoin, ce qui facilite un peu les choses. Donc c'est vrai que cet aspect-là, le Bitcoin comme instrument financier, c'est aussi assez largement accepté de cette façon-là, parce que ça permet de rentrer dans un cadre d'évaluation de fortune assez communément admis, puis finalement qui est le plus près de la réalité, puisque en tout cas, de mon point de vue, ça reste un instrument financier, le Bitcoin. C'est très proche de la finance, on va dire.
Si on le prend sur le côté monétaire, hein,
Oui,
dont on
l'économie
parle, moi je
monétaire, oui.
suis entièrement d'accord. Ouais.
D'accord.
Donc jusque-là, deux. Alors maintenant, les deux là, on les voyait un peu venir. Je suis curieux de voir les autres.
Alors, un autre, c'est un bien électronique.
Ok.
Alors, un bien électronique, parce qu'on achète des bitcoins contre des dollars, contre des euros. Comme on peut acheter des livres électroniques, comme on peut acheter des logiciels, comme on peut acheter tout un tas de biens dématérialisés, de biens immatériels. Donc certains pays, et à ma connaissance, je crois que la France considère notamment que le Bitcoin, de certains points de vue, est un bien électronique. Donc c'est un objet, en fait, dont on a la possession. Donc en ce sens, ça rentre aussi dans sa fortune, puisqu'on évalue des maisons, on évalue des voitures. En France, on a le fameux impôt sur la fortune. Et pour les gens qui ont la chance, parce que ça reste une chance, hein, d'être soumis à l'impôt sur la fortune, eh bien, ils doivent évaluer tous leurs biens, et ils doivent évaluer aussi les biens électroniques, et donc évaluer le Bitcoin également, et estimer leur fortune en Bitcoin. Donc un bien
D'accord,
électronique,
donc.
c'est-à-dire... C'est pas quelque chose qu'on peut utiliser vraiment, c'est pas quelque chose c'est pas financier, mais c'est un bien immatériel, comme un programme, on va dire.
D'accord, ok, intéressant. C'est vrai que j'ai pas tellement. Ici, je connais pas l'équivalent. C'est-à-dire que dans ma feuille d'impôt, j'ai jamais vu cette section-là, par exemple, ou même pour les sociétés. Donc, intéressant, ok. Donc, on a les trois. On va répéter comme ça, au fur et à mesure, on se rappelle. Donc, devise, instrument financier, bien électronique, ok.
Voilà. Et le dernier, un moyen de paiement. Et là, on va parler du Bitcoin Money, mais aussi de la plateforme Bitcoin. puisque, comme vous le savez, le Bitcoin permet de payer, permet d'acheter des biens. Donc ça peut être considéré comme un moyen de paiement. Et surtout, ça permet de faire entrer les établissements qui utilisent le Bitcoin comme dans les établissements de paiement, de faire dans la catégorie établissements de paiement, qui sont, et les établissements sont soumis à tout un tas de régulations, de règles qu'ils doivent respecter à partir du moment où ils ont le statut d'établissement de paiement.
Est-ce que là, on est dans le même cadre que par exemple les Frequent Flyers Miles? Si tu veux, moi, je peux aller m'acheter un billet d'avion avec mes points Air France, mais c'est un moyen de paiement, du coup, j'imagine, ou c'est pas tout à fait la même chose?
Alors là, je pense. Alors c'est marrant parce que quand on discute de ça avec les régulateurs, j'ai eu l'occasion de le faire, ils ont les avis divergent même à l'intérieur des personnes avec qui on discute. Donc ce sont vraiment des choses qui sont en train d'évoluer. Moi, les miles, ces miles-là, je les verrais plutôt là pour le coup comme des biens électroniques, c'est-à-dire des choses immatérielles que tu as qui ont de la valeur, que tu peux utiliser dans un certain contexte. C'est un moyen de paiement pour des vols, en l'occurrence, enfin, pour tous les gens qui l'acceptent. Moi, je verrais plus comme un billet électronique que tu peux échanger. Maintenant, peut-être, c'est vrai, tu as raison. Je ne sais pas, est-ce que les miles ne sont acceptés que par la compagnie aérienne qui les émet, ou alors d'autres peuvent les accepter pour payer autre
Ouais.
chose?
Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est vrai que quand tu as des crédits, quand tu as un moyen de paiement, est-ce que tu as un bon, par exemple, aussi? Tu vas, tu remplaces une paire de jeans au magasin, ils te donnent un bon qui donc n'est pas une devise, clairement, même si elle est labellée dans une devise. Et ça, c'est marrant, ouais, c'est vrai. Donc on est toujours un petit peu dans des distinctions fines, hein, là-dedans.
Mais là, je trouve alors la partie moyen de paiement par rapport aux trois autres, c'est aussi et voire peut-être surtout la plateforme Bitcoin. Par exemple, un établissement de paiement, parce que les gens, les sociétés qui jouent avec les moyens de paiement sont des établissements de paiement. Et une qui est la plus connue, c'est PayPal, qui est un établissement de paiement, donc qui est soumis à un certain nombre de règles. Voilà. Donc, en gros, une société qui utiliserait le Bitcoin uniquement pour faire des paiements et les convertirait dans d'autres monnaies, on va y venir juste après, serait soumis en fonction du pays dans lequel elle opère d'ailleurs, aux mêmes contraintes que tout établissement de paiement. Donc là, moi je trouve la petite différence, autant les trois premiers, c'était le Bitcoin en tant que, enfin la devise, si on parle pas de devise, mais le Bitcoin lui-même, là, c'est le Bitcoin plus la plateforme, voire la plateforme plus le Bitcoin, et en tant que moyen de paiement. Et donc
Donc
régulé, pardon, comme un établissement de paiement.
d'accord, ouais, ça fait plein de sens, effectivement, de passer enfin, toujours, hein. Toi, tu dis petit b pour la monnaie ou petit b pour le moyen pour la plateforme? Moi, je dis petit b pour la monnaie, mais il y a des gens qui me disent que c'est l'inverse. Comment tu tranches,
Petit
toi?
b, c'est-à-dire?
Bitcoin et Bitcoin.
Ah, petit b pour la monnaie, moi je dis.
Ah, on est d'accord. Bon, ben, ici, on est le club des petits b, donc si vous mettez un grand b à la monnaie, venez nous parler dans les commentaires, on va régler ça. D'accord, donc
Aussi pour
là.
revenir, parce qu'on parle, c'est vrai qu'on parle de Bitcoin et de monnaie électronique, la partie moyen de paiement prend aussi du sens quand on parle d'autres plateformes comme Ripple par exemple, qui a aussi une monnaie virtuelle, Ripple, mais qui permet de faire des transactions sans du tout passer par la monnaie virtuelle autour de la plateforme Ripple. Et cette plateforme-là, quand on l'utilise, on l'utilise aussi comme un moyen de paiement.
D'accord. Ok, donc là, on a fait le tour de ces quatre façons dont on peut voir soit les assets, soit la plateforme. Et où on va depuis là, alors?
Donc, maintenant qu'on a à peu près des idées sur qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, la question c'est, quand on régulait le Bitcoin, ça voudrait dire quel que soit d'ailleurs le statut qu'on va lui donner, que veut dire précisément réguler le Bitcoin et quelles sont les contraintes auxquelles on pourrait être soumis? Donc, en réalité, aujourd'hui, en fait, même si le Bitcoin en lui-même, il n'a pas de valeur unanimement reconnue, les activités liées au Bitcoin, c'est ça qui est régulé. Et en fait, c'est dès qu'on a une activité dans laquelle on touche du Bitcoin, où on va faire des échanges potentiellement de Bitcoin contre des biens ou contre des autres monnaies, là, on va pouvoir être amené à être régulé. Et donc, être régulé, ça veut dire quoi? Ça veut dire trois catégories de choses. Première catégorie, quand on va réguler, on doit définir quelles sont des règles en fait pour prévenir tout ce qui est anti-blanchiment, et fraude aussi contre le terrorisme. Les deux termes principaux, c'est anti-blanchiment et lutte contre le terrorisme. Et pour faire ça, en fait, il y a un ensemble de lois, de règles, qui s'appelle KYC, Know Your Customer en anglais, connaître son client en français, mais le KYC est, dans le monde financier, est assez connu aussi. Et ça vient.
Alors, je pense que tous ceux qui ont eu la chance de toucher au monde financier le connaissent très très bien, celui-là. On peut, en général, on s'arrête là dans les discussions si on n'a pas une bonne réponse, ouais.
Donc KYC, ça veut dire quoi? Ça veut dire connaître qui est le client et même surtout qui est le bénéficiaire économique du client. C'est-à-dire si c'est une société, par exemple, qui va acheter ou vendre des bitcoins, ben, il faut connaître qui sont les actionnaires de la société. Et dans des montages financiers assez complexes, les actionnaires peuvent être des autres sociétés, qui peuvent être des holdings, etc. Il faut être capable, normalement, pour bien faire son travail de KYC, de remonter jusqu'au bénéficiaire économique, personne physique, de la transaction.
Vous vous souvenez, quand on parlait de cette loi à New York qui voulait, je sais d'ailleurs, je ne sais même pas où elle en est, mais qui voulait en fait contraindre les commerçants de Bitcoin basés dans l'État de New York à savoir qui était derrière chaque compte, ben, c'était effectivement la réalisation de cette Know Your Customer, bon, très forte aux États-Unis en particulier. Ouais.
Ouais, exactement. Donc vous, pour maintenant que vous avez écouté quelques épisodes de Nipcoin, vous savez qu'il est difficile, si la personne se déclare pas elle-même détentrice d'une clé Bitcoin ou d'un certain nombre de Bitcoin, il n'est pas possible de savoir qui vraiment qui est le propriétaire de Bitcoin dans la blockchain. En tout cas, il est très difficile de le savoir, surtout si c'est pour les gens qui veulent le cacher. Donc
Ouais, c'est
aujourd'hui.
facile, par exemple, pour Kraken de nous demander une carte d'identité, mais si moi
Voilà.
j'envoie depuis Kraken à un compte, eux vont devoir demander qui est la personne à qui j'envoie, et c'est là l'énorme problème. Ouais.
Exactement. Ouais. Donc c'est en fait le KYC, c'est la façon de quand pour ceux qui ont déjà essayé d'ouvrir un compte auprès de Kraken, de Paymium en France ou d'un certain nombre d'établissements qui permettent d'acheter ou de vendre du Bitcoin, ils vont vous demander bah, vos cartes d'identité, un justificatif de domicile. Et puis aussi une photo, souvent une photo où la personne qui a la pour éviter que ce soit une carte d'identité volée, où la personne et la carte d'identité sont en même temps sur la photo. Donc, je sais pas si tu as déjà eu ça, toi, Ben? Moi, j'ai déjà eu quelques fois.
Ah non, non, non,
Ah.
là c'est ouais, voilà, c'est bon.
Ben,
On peut
voilà.
toujours aller plus loin, ouais, il
Oui,
faut.
après, bon, voilà. Donc, il demande ça, il demande d'envoyer ça. Et en fait, il le demande surtout pour la partie monnaie des transactions. Par exemple, avec Paymium, quand on va acheter des bitcoins, on va envoyer des euros. Et donc pour cette partie-là, j'envoie les euros, ben eux, ils sont obligés de faire cette identification du client, pas pour le bitcoin, mais pour la partie euro. Et donc les seuls en fait qui seraient pas aujourd'hui obligés de faire ça, c'est les gens qui n'échangent pas aucune monnaie fiduciaire contre du bitcoin. Donc c'est quoi? C'est les établissements qui acceptent les paiements en bitcoin. Ou aussi, il y a un certain nombre de. Dont une, il y avait une start-up notamment à la NIPConf, qui avait un distributeur de Bitcoin. En fait, il permettait de distribuer les Bitcoins. Eux, je ne sais pas s'ils sont soumis au
SB, ouais.
KYC. Ouais. Je suis pas sûr qu'eux soient soumis au KYC.
Ils sont soumis à l'autorisation bancaire, en fait,
Voilà.
qui est légèrement, dans ce cas-là, qui, oui, ils y sont soumis. Pas directement, mais tu dois rentrer des informations. Ouais.
D'accord. Et donc, tout ça pour faire de la lutte anti-blanchiment. Donc, en fait, une fois qu'on connaît le détenteur d'un compte, on doit vérifier un certain nombre de choses. Donc, déjà qu'il n'est pas listé sur un certain nombre de blacklists qui identifient que le GAFI crée, met en place pour identifier les gens qui n'ont pas le droit d'ouvrir un compte ou alors les gens dès qu'ils ouvrent un compte, il faut notifier les autorités du pays, ou alors pour vérifier aussi que les transactions, il y a aussi une chose qui est complexe, enfin qui est facile à faire finalement avec le Bitcoin puisque toute la blockchain est ouverte, mais il y a des règles complexes à mettre en œuvre pour déterminer dans le comportement des clients qu'est-ce qui peut être douteux. Par exemple, quelqu'un qui fait toujours des transactions entre 500 et c'est 3 000 euros, ben, si tout d'un coup, ou 3 000 francs suisses, tout d'un coup, il commence à en faire une tous les 15 jours de 15 000, là, c'est un peu bizarre, quoi. Donc, en fait, c'est cette partie-là pour faire de l'anti-blanchiment auquel sont soumis ces établissements-là. Et donc, on voit bien, bon, c'est faisable, mais la difficulté, c'est si une start-up doit faire ça. C'est pas si une banque doit le faire, parce que les banques, elles sont outillées pour faire ça, elles ont beaucoup d'argent. Mais vous voyez bien qu'on voit bien que si une start-up doit commencer à faire tout ça, ça veut dire que c'est autant de travaux à faire et d'énergie à mettre sur des choses qui sont pas core business et qui sont pas le fameux minimum viable product, pour peu que les services soient innovants. Et c'est ça, en fait, la crainte un peu la question. En tout cas, moi, je trouve les régulateurs qui sont positifs et ouverts. La question, c'est pas, il faut réguler pour interdire le Bitcoin, c'est comment le réguler suffisamment pour empêcher les fraudes et l'anti-blanchiment et faire de la lutte contre le terrorisme, tout en permettant la création de chaînes de valeurs innovantes et de choses innovantes.
Ouais, je peux te donner l'exemple, en Suisse, c'est que le régulateur a simplement décidé de ne pas réguler sur le Bitcoin. Et c'est-à-dire que c'est un régulateur intelligent, parce que comme tu l'as dit, le régulateur intelligent n'émet pas de loi finalement, dans la mesure où il y a des lois existantes. Et donc, pour tout ce qui est transaction en cash, il y a déjà toute une série de lois. C'est-à-dire que tu as le droit, j'ai le droit de venir chez toi puis te donner 100 francs parce que je te trouve sympa ou parce que tu m'as vendu un truc, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai pas le droit de venir chez toi puis te filer 200 000 francs parce que je te trouve sympa. 200 000 euros, pardon. Et la même chose, si je veux par exemple commencer à investir ton argent, je ne peux pas le faire, que ce soit en euros ou en bitcoin, là ils disent, monter un fonds en bitcoin est exactement lié aux mêmes règles que monter un fonds en euros. Moi j'aime bien ça, parce que c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on devrait commencer à inventer de nouvelles règles pour ça, quoi?
Complètement d'accord. Donc, si on continue, première partie de la régulation, identifier les possesseurs de Bitcoin ou de toute monnaie pour vérifier que ce sont des gens qui sont bien sous tout rapport, on va dire. Deuxième
Ouais, ok.
partie, on manipule de l'argent et on manipule aussi des Bitcoins, donc de la monnaie qui appartient à quelqu'un d'autre. Et il y a une notion de fonds propres. Et donc,
Ah
il y
ouais.
a, en fait, dans la régulation, dans une des lois ou une des règles auxquelles sont soumises les banques, c'est le fameux Bâle 3 ou Bâle 4, pour ceux qui en ont entendu parler, c'est d'avoir suffisamment de fonds propres pour qu'en cas de défaillance de l'un ou l'autre, de l'une ou l'autre des contreparties avec qui ils travaillent, eh bien, ils puissent rembourser leurs clients. Donc ça, ce sont des choses qui sont pas toujours simples. Il y a des calculs assez, c'est complexe pour faire en sorte que là aussi, avoir des si ils sont trop importants, c'est un frein, parce que ça veut dire immobiliser de l'argent et ça va limiter aussi l'innovation. Et s'ils sont trop faibles, c'est un risque important, parce que en cas à la moindre défaillance, eh bien, tous les clients, tous les utilisateurs font faillite. Donc ça donne pas non plus confiance dans le système. Alors bizarrement, cette notion de fonds propres, elle est aujourd'hui pas très évoquée quand on parle de Bitcoin. Parce qu'on estime souvent, sûrement, qu'à partir du moment où les gens ont transféré les bitcoins sur une plateforme, eh bien, la plateforme, elle va bien les gérer, elle va savoir bien les gérer. C'est malheureusement pas toujours le cas. Et aujourd'hui, il y a, à ma connaissance, pas d'obligation d'avoir un minimum de fonds propres dans une devise, dans une vraie devise, quand on détient les bitcoins qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Et là, c'est vraiment détenir les portes. Là aussi, on est dans une forme de rupture, parce que quand nos bitcoins sont, par exemple, quand moi j'ai mes bitcoins sur mes peu de bitcoins, là, mes dixièmes de bitcoins sur la plateforme Paymium, c'est vraiment mon argent qui est là-bas. Ils ont mon portefeuille. S'ils perdent mes clés, s'ils perdent tout, je peux plus rien faire du tout avec. Donc, pour moi, la notion de fonds propres, ça a une valeur réelle, et il devrait avoir un minimum d'obligation d'avoir des fonds propres.
Mais d'ailleurs, quand on est sur cette plateforme, soit dans une banque, l'accord qu'on a avec la banque, qui est tacite, hein, mais c'est qu'eux font ce qu'ils veulent avec notre argent,
Exactement.
tandis que c'est vrai que Kraken, t'as raison, ou Paymium, ils peuvent pas toucher. Donc, c'est que des dépositaires, c'est un coffre-fort. On est à la banque d'il y a 1 000 ans, quoi, c'est un coffre-fort.
Oui, c'est ça. Alors, là aussi, ils peuvent pas toucher. À mon avis, ils y touchent pas. Mais est-ce que vraiment ils peuvent pas toucher? Je sais pas. J'ai pas lu assez tous les détails
Bon,
pour
et ça
savoir est-ce qu'ils peuvent
viendra. Il y aura
pas.
des gens qui
Voilà.
vont te dire un jour ou l'autre, voilà, on peut faire des transactions, on te rend ça. Ça va arriver en tout cas, c'est clair.
Possible, ouais. Et le troisième angle lié à la régulation, tu en as parlé un peu tout à l'heure, c'est la taxation. Comment sont taxés les transactions au Bitcoin. Est-ce qu'on applique, alors la première, c'est la TVA. Est-ce qu'on applique la TVA? Sur quoi applique-t-on la TVA? Est-ce qu'on l'applique sur les
Ouais.
transactions? Est-ce qu'on l'applique aussi sur le fait de les Bitcoins que l'on gagne quand on mine? Comment ça est taxé? Bon, aujourd'hui, il y en a de moins en moins, mais bon, je pense que certaines grosses structures ont ces questions-là bien en tête. Et comment aussi
Bon,
sont taxées les plus-values. Ouais, c'est plus simple.
c'est vrai que taxer, mettre la TVA sur la transaction, j'en ai entendu parler, hein, je crois que l'Allemagne a hésité. Je trouve ça d'une stupidité, mais alors, tu sais, j'arrive même pas à comprendre comment on a pu proposer ça. Par ailleurs, après, la TVA sur les activités de minage, c'est de la création de valeur, c'est un service, c'est professionnel. Moi, ça, je pourrais rentrer en matière. Je suis pas assez un expert pour voir si c'est un sens légal, mais je comprends la logique derrière, en tout
Mais
cas.
c'est vrai que ça fait plus de sens, parce que là, c'est de la valeur ajoutée réellement, hein.
Oui.
Quand on le fait, ça fait plus de sens là-dessus que sur une simple transaction en Bitcoin. Là, c'est vraiment pas comprendre ce qu'est le Bitcoin, faire ça. Et bien sûr, la taxe sur les plus-values, mais là, on retombe, on a parlé tout à l'heure, sur les plus-values que l'on peut faire au travers de quelconque instrument financier, avec un risque là, important, hein, toujours. Puisque on va payer l'impôt au moment de la valorisation du Bitcoin, pour le moment où on en sort, forcément. En tout cas, quand on paye par exemple l'impôt sur la fortune, c'est le cas. Sinon, on va payer au moment où on réalise. Donc.
Ok, donc c'est vrai que là, donc on a fait le tour aussi des différents angles. Est-ce qu'il y a encore autre chose dans ce dossier ou...
Ouais, il y avait un point que je voulais évoquer rapidement, c'est. Souvent, et même quand on lit, on va lire le Bitcoin, c'est une monnaie électronique. Or, en réalité, la monnaie électronique, le statut de monnaie électronique, c'est quelque chose qui est régulé. C'est la Commission européenne notamment, et puis c'est régulé dans le monde. Mais je sais qu'au niveau de l'Europe, il y a une directive très précise qui a défini ce qu'était une monnaie électronique. Et le Bitcoin n'est pas une monnaie électronique. C'est une monnaie virtuelle. Donc là, une monnaie virtuelle, c'est une monnaie qui est créée informatiquement par des algorithmes mathématiques, mais c'est pas une monnaie électronique, puisqu'une monnaie électronique, c'est une valeur, c'est l'équivalent, la contrepartie d'une monnaie réelle, mais qui est stockée sous forme électronique et qui va être émise après la réception de fonds réels, dont le montant doit être exactement égal à la valeur de la monnaie électronique. Donc c'est plus un stockage, la monnaie électronique, c'est un stockage. Mais il doit y avoir une contre-valeur 1 à 1 avec une monnaie réelle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, voilà, et qui doit être toujours respectée. Et aussi, une monnaie électronique doit être acceptée comme moyen de paiement par d'autres organismes que l'émetteur de la monnaie. Donc, on voit par exemple que PayPal, c'est un établissement de monnaie électronique. Puisque, en fait,
D'accord.
quand on dépose de l'euro, ben, on peut les retirer. Si on dépose 10 euros, on va récupérer 10 euros, même 10 ans après, un an après, 10 mois après. Voilà. Donc, le seul lien entre le Bitcoin et la monnaie électronique, c'est le format de stockage qui est un format numérique. Sinon, en
D'accord.
réalité, il y a assez peu de similarités. Et donc, un établissement de monnaie électronique, c'est pas parce qu'il a un établissement de monnaie électronique qu'il va pouvoir avoir plus le droit que les autres de traiter avec du Bitcoin.
Intéressant, c'est vrai. Donc, on a fait là un petit peu un tour. Est-ce que toi, juste pour nous donner une idée, tu as quelques pistes sur comment c'est traité en France? J'ai fait un mot sur comment c'est traité en Suisse et au Luxembourg, s'il y a dans les grosses lignes. Hein,
Alors, au Luxembourg, c'est aujourd'hui pas régulé non plus, en fait. Il y a eu une note qui a été émise début de cette année pour dire que la commission de surveillance du secteur financier était favorable à l'établissement de sociétés, de start-up autour du Bitcoin, qui avait vocation à proposer des services innovants autour des monnaies virtuelles et notamment du Bitcoin. Et je sais qu'il y a des discussions avec un certain nombre de. Il y a souvent, en fait, il y a pas mal de sociétés qui veulent s'établir au Luxembourg, qui viennent voir le régulateur. Parce que aussi, le Luxembourg a un avantage, c'est qu'à partir du moment où ils exercent sur le Luxembourg, ils peuvent normalement exercer partout en Europe, puisque avec le libre-échange, les accords de Schengen, etc., le fait de pouvoir exercer au Luxembourg ouvre quand même une porte sur le reste de l'Europe. Donc le Luxembourg le régule pas de façon. En fait, ce qu'ils me disent, c'est que beaucoup de choses peuvent déjà être faites aujourd'hui, énormément, en utilisant les lois existantes. Donc, par
C'est
exemple,
ça.
si on échange contre des euros ou contre des francs suisses ou contre, il faut surveiller ses clients, etc. On pourrait même, moi, j'aurais posé la question. Ils me disaient, est-ce qu'une banque pourrait ouvrir un compte en Bitcoin aujourd'hui? Oui, pourrait ouvrir un compte. Une banque pourrait ouvrir un compte sur lequel les gens déposeraient des Bitcoins. Il n'y a
Ouais,
aucune.
là c'est difficile. J'en ai parlé avec un banquier justement dernièrement. Il a dit le problème qu'on a mentionné avant, c'est-à-dire on pourrait faire ça, mais le souci étant qu'on pourrait renvoyer l'argent que sur des adresses Bitcoin connues.
Exactement, ah oui.
Et là, ça leur fait déjà mal au crâne, quoi. Donc ils aiment pas. Donc pour l'instant, eux, la banque le fait pas parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'ils vont éviter. Mais même à l'interne, hein, tu vois, un mec qui dit ah ouais, bon, donc.
Il y a aussi, moi je trouve, il y a quand même deux caractéristiques autour du Bitcoin qu'on ne retrouve pas dans les transactions centralisées, qui rendent des choses pas évidentes. C'est que, un, on ne peut pas annuler une transaction en Bitcoin,
Eh ouais.
et on ne peut pas la refuser non plus.
Oui,
C'est-à-dire,
c'est ça.
si toi tu as un compte en Bitcoin, et si la mafia russe veut t'envoyer l'équivalent d'1 million de dollars sur ton compte en Bitcoin, t'as aucun moyen de la refuser. Aucun moyen. S'ils connaissent ta clé, bien sûr.
Ouais, c'est bah, ton adresse, ouais. Tu peux la renvoyer
Tu peux la
au
renvoyer
compte
juste après, mais
qu'elle.
ça c'est à la même adresse éventuellement.
Il fait un ping-pong, ouais. Et en France, tu sais, parce qu'il y a eu le rapport du Sénat, il y a eu le rapport. J'ai pas trop suivi. Est-ce qu'il y a eu des changements? C'est un petit peu plus difficile, hein. Ils sont un poil moins ouverts quand
Ouais,
même.
voilà, moi j'ai pas vu non plus j'ai pas vu d'annonce particulière récemment. Donc il y a eu le fameux rapport du Sénat, effectivement. J'ai l'impression qu'ils sont pas si ouverts que ça, hein, que c'est pas très très ouvert, et que le lobby bancaire n'incite pas non plus les régulateurs et le gouvernement à être très très ouverts aujourd'hui autour du Bitcoin.
Ouais, le
Donc
rapport qui
c'est
disait faut y aller
plutôt
à fond, mais surtout faire hyper attention à tout.
ouais.
Donc, ouais.
Ouais. Non, c'est plutôt méfiance pour l'instant, j'ai l'impression. Ouais.
Bon,
Et en
ouais.
Suisse, alors, et la Suisse? Et la Suisse? Que
Alors, la
disent
Suisse,
nos
ouais,
amis
bah, on est à
suisses?
peu près dans le même cas que le Luxembourg, c'est-à-dire les lois actuelles suffisent, hein, comme je l'ai dit. Et donc, ils sont. Et l'autre truc que la FINMA, c'est-à-dire la commission qui s'occupe de la loi bancaire et autres, financières, elle dit d'abord, il n'y a pas de raison, mais surtout, c'est beaucoup trop petit en volume. En gros, ce qu'ils disent, c'est que chaque fois qu'un truc vaut 5 à 10 milliards, il faut commencer à faire des lois, on n'est pas couché, quoi. Donc, ils n'ont pas envie d'y toucher jusqu'à que la valorisation le justifie, ce qui est aussi assez intelligent. Et ils disent, bon, on verra au moment. Alors, c'est toujours un petit peu il y a deux écoles, hein. Il y a les tenants du principe de précaution, qui, moi, j'aime bien dans la vie réelle. Et que j'aime bien pour certains instruments financiers, qui vont dire on va beaucoup mettre de lois tout de suite, et puis bah, dans les pays peut-être marqués plus à droite, hein, bah, comme le Luxembourg et la Suisse, ils disent bah, on va légiférer le jour où il y a un abus manifeste, où on peut s'attendre à un abus manifeste. Donc ils sont vraiment tranquillous à ce niveau-là, et donc c'est pour ça aussi que bah, des sociétés comme Ethereum sont en Suisse, parce qu'ils savent que le cadre légal ne va pas varier. Prochainement, même chose au Luxembourg, t'es pas du jour au lendemain, comme ça arrive parfois en France, hein, c'est beaucoup plus rapide les changements de loi, où tu peux te retrouver avec un business qui est illégal. Et ça fait mal.
Et alors, la question que je me posais aussi, ça me paraît, enfin, c'est que est-ce qu'un pays, là je pense plutôt à la Chine, à la Corée du Nord, à l'URSS éventuellement, pourrait déclarer illégal le fait de posséder des bitcoins et donc les confisquer à ceux qui en ont?
Ouais. Alors, je crois que il y a des, y a, ça va dans ce sens-là dans certains pays, mais le problème qu'il y a, c'est comment tu les confisques, et comment tu. Alors, tu peux savoir que ça passe chez toi, ça passe par des réseaux, donc ça, c'est quand même sur Internet. Donc, tu peux voir. Est-ce que tu peux vraiment faire quelque
Non, mais
chose
après, pouvoir le faire, c'est un autre. Mais en tout cas, s'octroyer le droit de le faire quand ils peuvent le faire, en tout cas.
Le problème, c'est que s'ils ne le reconnaissent pas, c'est intéressant, hein, c'est la même question. Les États-Unis n'ont pas d'état d'âme. Quand ils ont, par exemple, chopé les bitcoins de Silk Road, là, ce n'était pas contre bitcoin, c'était
Non, c'était
l'utilisation qu'on a
contre
faite.
l'activité, ouais, effectivement.
Donc là, ils les ont revendus comme toute propriété. Mais maintenant, si tu penses qu'une monnaie illégale et que tu la confisques, qu'est-ce que tu en fais, toi? Tu ne peux pas la vendre, vu que tes propres règles disent que c'est illégal, tu
Oui,
vois.
oui. Mmh.
Tu peux pas les détruire non plus. Alors, tu peux les renvoyer à une adresse inconnue. Tu les renvoies, tu les détruis,
Satoshi
quoi.
Nakamoto.
Ouais, mais c'est vrai, n'empêche. Si tu les envoies à une adresse qui n'a pas encore été ouverte, ben, tu
Voilà.
peux les.
Ah,
Ouais,
tu peux les
ok.
rendre. Si tu peux, tu crées une adresse, tu les envoies à cette adresse-là et tu jettes la clé.
Ou même pas, t'envoies une adresse qui n'existe pas encore, et vu que la créa n'a pas été clé, ben c'est fini là, quoi. C'est comme ça que c'est qu'ils ont détruit un certain nombre de bitcoins pour créer d'autres monnaies. Ouais.
J'ai vu que l'Espagne aussi, je relisais mes notes là, l'Espagne le 22 septembre, donc c'est finalement récemment, a accordé un statut qui a considéré le Bitcoin comme un système de paiement électronique justement, pour et notamment pour encadrer les jeux de hasard utilisant le Bitcoin. Et donc eux, ils autorisent expressément le fait de faire ça. Voilà.
Bon, bah écoute, on suivra avec intérêt de toute manière les lois quand elles sortiront dans les différents pays. C'est bien d'avoir ce cadre, hein. C'est comme l'épisode 0 où on a parlé de qu'est-ce que c'est le proof of work, et etc. De qu'est-ce que c'est la blockchain, et, enfin les premiers épisodes. C'est vrai qu'il faut poser ces pierres, on en est encore là hein, dans ces technologies. Donc merci beaucoup Fabrice. Peut-être pour terminer l'émission, là, dans les quelques minutes qui restent, j'aimerais te parler d'une chose. Alors peut-être juste un. On parle souvent, ouais, quels sont les exemples d'utilisation de Bitcoin. J'ai croisé un entrepreneur chilien la semaine passée qui a une startup qui s'appelle Dinex, Dinex.cl. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils se basent sur Ripple. Et qu'est-ce qu'ils font basé sur Ripple? C'est un moyen de paiement, en fait, de transport au Chili. Donc, soit de transport public, soit de taxi. Et ça leur permet finalement de pallier un gros problème qu'il y a au Chili, c'est qu'il y a un moyen de paiement qui existe déjà, mais qui semblerait que le taux de fraude sur ces cartes prépayées est tellement gros que finalement ils estiment pratiquement à 40% de pertes sur leur réseau, donc ils cherchent une alternative. Et là, la transparence offerte et la facilité offerte par Ripple est bienvenue. La raison pour laquelle ils n'utilisent pas Bitcoin, c'est simplement parce que le temps de transaction est beaucoup trop long. Alors que Ripple,
D'accord,
c'est 1 ou 2 secondes. Ben Bitcoin, c'est voilà, 10 minutes. Et si on n'est pas trop prudent, et même Litecoin, ça serait encore trop long. Donc, je trouvais intéressant, si vous parlez espagnol, eh bien, allez jeter un coup d'œil à dinex.cl. J'aime bien voir des vrais exemples concrets, quoi.
ouais.
Je sais pas
Ouais,
si tu as vu
intéressant.
d'autres trucs basés sur Ripple qui serviraient un petit peu comme ça de moyen de paiement. J'en ai vu dans les monnaies, genre, on en parlait Forex, du trading. Mais pas forcément encore comme ça.
Non, j'ai pas vu, j'ai pas vu, non. Et là, c'est le Ripple, la monnaie virtuelle Ripple qui est utilisée.
Voilà. Donc
Ah,
lui,
dans
il
ce
se base
cas-là,
sur la
d'accord, ouais,
plateforme et
d'accord.
puis Ripple a cette vocation à être invisible pour l'utilisateur. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une monnaie sur Ripple qui est liée au, je sais pas, pardon, hein, pour mes amis chiliens, au pesos chilien, je vais dire, sachant que ça peut être
D'accord.
tout à fait autre chose. Et donc il a une contrepartie 1-1 qui lui en évite d'avoir les problèmes ben voilà, de fluctuation dont on a déjà parlé.
D'accord. Ok,
C'est
bah
assez cool comme
intéressant.
utilisation. Et Ripple a une plateforme, lui m'a dit, qui était vraiment, vraiment bien. Il a beaucoup de plaisir à l'utiliser, il trouve ça simple. C'est pas un développeur, enfin c'est un développeur, mais c'est pas genre le gars qui est sorti de computer science et puis qui a fait ça toute sa vie. Il a appris sur le tas avec les années et il s'en sort très bien et il aime bien. Donc,
D'accord. Et pour faire ça, il faut prendre contact avec Ripple. Tu peux pas te contenter de télécharger le SDK et de travailler dans ton coin, non? Il faut prendre contact avec Ripple ou pas?
oui, mais de
Oui,
ce
il me
que j'ai
semble.
compris, c'est léger.
Ouais,
Enfin,
d'accord.
c'est pas beaucoup plus que s'inscrire à un site. Tu n'as pas besoin
Ok.
d'avoir un représentant en ligne qui te tient la jambe,
Ouais,
etc.
d'accord. Ah, c'est intéressant.
Et puis, deuxième petite chose dont je voulais vous parler pour terminer cette émission, c'est j'ai été à un hackathon qui était la semaine passée à Genève et dont le thème, c'était changer le gouvernement via la transparence. Qui était en fait quelque chose qui n'avait rien à voir du tout avec Ethereum, mais qui était là. Il y avait toute l'équipe d'Ethereum qui est venue, ils sont venus à 5 ou 6, dont Vitalik Buterin, donc moi voilà, je suis un grand fan de ce qu'ils font. Stéphane Tual était là aussi, qui était là à la NipConf, donc c'était un énorme plaisir de les voir. Et c'était intéressant de voir en fait des développeurs et des gens de la société civile échanger sur les valeurs de la transparence et de la blockchain pour la démocratie, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette blockchain qui aurait un sens au-delà de l'aspect monétaire, hein, vu que c'est un petit peu le but d'Ethereum. Est-ce que c'est par exemple, bah, ça peut être des exemples vraiment presque triviaux, genre les votations des membres du Parlement. Comme ça, on sait que c'est pas falsifié, etc. Ou est-ce que c'est carrément des articles de loi, ou est-ce que c'est, je sais pas, toi, tout ce qu'on peut, le salaire des élus, va savoir quel type d'information est-ce qu'on aurait envie de graver un peu dans le marbre à un moment ou à un autre. Je trouve assez cool, et je trouve que si vous êtes un petit peu dans ces réflexions-là, ça vaut la peine de mettre sur pied ce genre de hackathon, même un petit groupe. Il y avait là, je dirais, bien 50 personnes. Et bon, tu vois que les gens qui ne sont pas dans les
crypto-monnaies... Et il en est sorti, tu as vu les résultats, il en est sorti des choses intéressantes.
Ouais, alors j'ai dû partir malheureusement parce que j'avais un rendez-vous au moment où ils annonçaient les résultats. J'ai vu justement ces trucs où ils essayaient de voir comment est-ce que la loi finalement pourrait être un des sujets. C'est une sorte de démocratie participative via la blockchain, c'est-à-dire où d'un coup, tu aurais justement des tokens qui sont distribués aussi pour voter, mais sur des articles que toi, tu voudrais soumettre. Donc, une sorte de prévotation. C'était assez complexe et tu vois que le... Évidemment, hein, tout ce qui est social, ça ne peut pas se résoudre. La blockchain ne va pas tout résoudre. Elle résout le côté transparence, le côté gestion des voix. Mais bon, le reste, le fait que une société, c'est compliqué, ça ne va pas devenir plus simple parce qu'il y a la blockchain dessous, quoi. Donc, il y avait cette rencontre, cette collision des deux mondes était vraiment fascinante, quoi.
Ah, super.
Donc, voilà, Ethereum, mon projet phare, j'aime bien, j'ai vu là vraiment plaisir, quoi. Bon, voilà, donc nous, on arrive au terme de cette émission. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais mentionner avant la fin?
Non, c'est bon pour moi, on a fait le tour de ce que je pensais dire. Non, non, c'est tout bon.
Bon, bah, c'est magnifique. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. On enregistre maintenant le dimanche, donc attendez plutôt que ça sorte lundi ou mardi. Et d'ici là, ben, n'hésitez pas à commenter sur Nipcoin. Vous allez sur le site Nipcast et puis vous trouvez là Nipcoin là-dedans. Et puis, ben, il y a tous les autres podcasts de la famille que vous connaissez. Nipdev pour toi, Niptech pour moi, mais encore tous les autres. Nipedu, les Nipsport, les Niplife, etc. Bon, voilà, tout plein de choses. On a une app, vous le savez, vous connaissez tout ça. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mot aussi. @BQRD et @FXZO.
Voilà.
Voilà. Bon, okay. C'est magnifique. Magnifique semaine et à tout bientôt. Ciao,
merci,
ciao.
Merci, ciao, ciao.